VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, il est 18h30 en temps universel, bienvenue dans le monde aujourd'hui du mercredi 20 novembre 2019. Et Kabadou avec vous, voici les titres. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, au moins 21 morts après deux attaques hier soir attribuées aux rebelles ADF. Au Mali, le bilan de l'attaque à la frontière avec le Niger est révisé à la hausse. 30 soldats ont été enterrés à Gao. L'Iran crie victoire contre l'ennemi après plusieurs jours d'émeutes contre une hausse du prix de l'essence. Ici, aux États-Unis, Gordon Sondland, proche du président Trump, témoigne au Congrès dans l'affaire ukrainienne. Et puis ne manquez pas dans 10 minutes l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, les rebelles ADF ont encore des victimes. Au moins 10 civils ont été tués par des milices du groupe lors de deux nouvelles attaques mardi soir dans la région de Beni. Le point avec Abdourahmane Dia.
Présente sur le terrain à la recherche des victimes, des sources de la société civile évoquent un bilan plus lourd et parlent d'au moins 21 morts dans deux attaques simultanées sur la ville de Beni et près d'Oicha. Des civils ont également été kidnappés à Beniville. Ces attaques hier soir ont aussi provoqué la fuite des populations. Les observateurs estiment qu'il s'agit d'opérations de représailles des ADF pour décourager les populations civiles de collaborer avec l'armée congolaise. Les forces armées congolaises ont lancé des offensives dans la région pour déloger toutes les milices. Ce matin, des manifestants ont protesté contre la mission des Nations Unies au Congo. Les personnels onusiens à Beni ont été confinés à domicile. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement a affirmé que 12 de ses militants ont été arrêtés à Oicha, où une marche pacifique a été organisée pour exiger des mesures urgentes de sécurisation de la population.
RCA, le chef d'un des nombreux groupes armés rebelles qui se partagent plus de deux tiers du pays, Abdoulaye Miskine, a été arrêté au Tchad, pays voisin. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement centrafricain qui réclame son extradition. Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto a lancé son parti dans la course aux élections législatives et municipales prévues le 9 février prochain. Dans une circulaire, M. Kamto annonce la création au sein de son mouvement pour la renaissance du Cameroun d'une commission en charge des investitures pour les élections municipales et législatives. Nous reviendrons sur le dossier camerounais et la crise dans les régions anglophones en seconde partie de journal. L'ancien président béninois Thomas Boni Yayi est revenu dans son pays. Il était en exil depuis les législatives d'avril qui avaient plongé le Bénin dans une grave crise politique. Le président Patrice Talon le recevra à sa demande, a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement Alain Amrouna. À Gao, cérémonie d'inhumation de 30 soldats maliens tués dans l'attaque lundi dernier à Tambacore, dans la région de Ménaka. C'était en présence du ministre de la Défense, le général Dayourou Dembélé et une foule nombreuse de parents et amis. À Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Moment de douleur intense à l'arrivée des 30 corps de soldats tués dans l'attaque de Tambacore dans la région de Ménaka. C'est le commandant du 3e régiment mixte qui fait la lecture de l'oraison funèbre des soldats tués. Colonel Abdelkarim Founi Keïta, commandant du 3e régiment mixte.
C'est en proie à une profonde douleur que je viens au nom des forces armées et de sécurité rendre un dernier hommage aux vaillants militaires que les terroristes ont fait lâcheté absurde nous a fauché le lundi 18 novembre 2019 à Tambacore, dans la région de Ménaka.
Pour l'honneur de tous les soldats tués et du Mali en général, les militaires maliens sont plus que jamais engagés à continuer la lutte contre les forces du mal. Commandant du 3e régiment mixte, Abdelkarim Founi Keïta.
Nous passons à l'endroit de nos familles avec lesquelles nous partageons étroitement ces moments de peine. Pour l'honneur de votre mémoire et pour l'honneur du Mali, nous nous engageons à lutter contre les forces du mal.
Cette cérémonie d'hommage mérité et d'adieu s'est déroulée devant le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Dahiru Dambélé et une foule nombreuse de parents. Dami Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Par ailleurs, l'armée tchèque va prendre en 2020 le commandement de la mission d'entraînement de l'Union européenne au Mali. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre Andrej Babi. 5 soldats tchèques servent dans la mission des Nations Unies au Mali, communément appelée MINUSMA. Au Niger, l'activiste nigérien Sadat Ilia Danmalam, écroué depuis avril 2018 après des manifestations contre la loi de finances, devrait être libéré ce mercredi en vertu d'une décision de la justice. C'est ce qu'a affirmé son avocat. Cette ONG, dont Amnesty International et le ROTAB, avaient estimé en juillet que les autorités du Niger devaient libérer immédiatement et sans condition ce militant. Le programme alimentaire mondial met en garde contre une crise humanitaire grandissante dans la région du Sahel qui englobe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans un rapport publié sur son site, les Nations Unies dénoncent les violences qui entraînent les déplacements de la population, la faim et la pauvreté généralisée. Un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine. En Angola, les autorités s'inquiètent d'une réapparition de la poliomyélite. Elles ont recensé en quelques jours près de 40 cas attribués à une baisse de la couverture vaccinale des enfants. La ministre angolaise de la Santé a rappelé l'absolue nécessité de faire vacciner les populations. Une campagne lancée lundi devrait permettre de vacciner 2,5 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans. Au Mozambique, plus d'une vingtaine d'ONG ont exigé la libération immédiate et sans condition de 18 observateurs électoraux arrêtés lors du scrutin du 15 octobre et détenus depuis dans des conditions qu'elles jugent inhumaines. En Algérie, 4 journalistes du quotidien Le Temps, favorables au parti au pouvoir, ont été suspendus après que l'un d'eux a critiqué sur les réseaux sociaux la couverture honteuse par le journal du processus électoral et la censure.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Suite des auditions publiques au Congrès américain dans le cadre de l'enquête en vue de l'ouverture éventuelle d'une mise en accusation du président des États-Unis. Les yeux sont rivés aujourd'hui sur l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, Gordon Sondland. Compte rendu, Jacques Aristide.
Le diplomate a déclaré ne jamais avoir entendu le président Donald Trump conditionner une aide militaire destinée à l'Ukraine à l'ouverture d'enquêtes sur ses rivaux politiques. Le président Trump ne m'a jamais dit directement que l'aide était conditionnée, mais c'était clair pour tout le monde qu'il y avait un lien, a-t-il ajouté. Gordon Sondland, qui a reconnu avoir exprimé cette contrepartie aux Ukrainiens, a expliqué l'avoir fait sur la base de sa propre déduction en partant du principe que 2 plus 2 font 4. Il a également indiqué que c'était à la demande expresse du président que les diplomates chargés du dossier ukrainien ont accepté, malgré leurs réserves, de travailler avec son avocat personnel, Rudy Giuliani. L'avocat est accusé d'avoir fait pression pour que le nouveau chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, entame des enquêtes sur les démocrates américains et sur le groupe gazier Burisma, qui avait alors dans son conseil d'administration Hunter Biden, fils de Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate dans la course à la Maison-Blanche l'an prochain. Le président Trump et son homologue ukrainien ont déjà nié en bloc toute pression et toute demande de contrepartie.
Téhéran crie victoire contre un complot ennemi après plusieurs jours de manifestations contre une hausse du prix de l'essence. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les anarchistes qui sont descendus dans les rues agissaient conformément à un complot monté par les forces réactionnaires de la région, les sionistes et les Américains, a déclaré le président Hassan Rouhani. Le guide suprême Ali Khamenei a affirmé que les Iraniens ont repoussé l'ennemi dans la guerre politique. Les troubles ont commencé vendredi après l'annonce d'une réforme du mode de subvention de l'essence censée bénéficier aux ménages les moins favorisés. Cette mesure devait toutefois s'accompagner d'une hausse du prix à la pompe. Les manifestations contre cette hausse du prix du carburant se sont étendues à au moins 40 villes dont Téhéran. Les autorités ont confirmé la mort de 5 personnes, mais Amnesty International fait état d'au moins 106 manifestants tués. Ces manifestations surviennent alors que l'Iran pays membre de l'OPEP, traverse une récession alimentée par le rétablissement des sanctions américaines après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien.
En Syrie, 23 personnes, dont 16 combattants étrangers, ont été tuées dans des raids israéliens à Damas et dans sa banlieue contre des positions du régime syrien et de forces iraniennes alliées, selon un nouveau bilan publié par une ONG. En Israël, Benny Gantz, le rival de Benjamin Netanyahou, peine à obtenir les soutiens nécessaires pour former le prochain gouvernement, rapprochant ainsi l'État hébreu un peu plus à de nouvelles élections. Par ailleurs, une réunion d'urgence aura lieu lundi à la Ligue arabe au sujet de l'annonce par les États-Unis de ne plus considérer comme illégales les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. C'est ce qu'a indiqué l'organisation pan-arabe. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
La production cotonnière en Côte d'Ivoire pour la campagne 2019-2020 devrait atteindre un record de 510 000 tonnes contre 468 000 tonnes environ. Les pluies ont été bonnes pendant les semailles et les agriculteurs ont reçu les intrants dont ils avaient besoin, a annoncé l'Association des égraineurs de coton pour expliquer cette embellie. Le gouvernement ivoirien vise une production de 600 000 tonnes d'ici 2020. La compagnie aérienne publique Air Botswana annonce le licenciement de plus de la moitié de son personnel avec l'objectif à terme de privatiser l'entreprise. Dans le cadre de ce plan, Air Botswana va renoncer à l'ensemble de ses activités au sol. Elles seront confiées à une nouvelle entreprise privée qui embauchera une partie des employés licenciés. La compagnie aérienne botswanaise compte ainsi renouer avec les bénéfices d'ici à 2 ans. Pour terminer, la compagnie nationale South African Airways est sur le point de manquer de l'argent et pourrait être liquidée si le gouvernement ne lui accordait pas d'autres garanties, alors que les syndicats menacent de poursuivre une grève secondaire. Dans le cadre de cette grève, un certificat de grève a été émis par la compagnie aérienne sud-africaine Comair, partenaire de South African Airways. Une fois le certificat de grève délivré, les syndicats informeront les employeurs de toute grève dans les 48 heures et ils pourraient alors fermer l'ensemble du secteur de l'aviation sud-africain.
C'est l'heure de la page sportive qui vous est présentée par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ika, bonsoir à tous.
L'Égypte rejoint la Côte d'Ivoire en finale de la CAN des moins de 23 ans.
Oui, les Pharaons Espoirs ont décroché leur ticket devant l'Afrique du Sud battue 3-0 avec un doublé d'Abdelrahman Magdi. Ce vendredi en finale, l'Égypte va affronter la Côte d'Ivoire qui s'est défaite du Ghana en demi-finale. Après l'épreuve des tirs au but, le score était de 2-2 après les prolongations. Ivoiriens et Égyptiens décrochent ainsi leur billet pour les Jeux Olympiques 2020. L'Afrique du Sud garde une chance d'aller à Tokyo en cas de succès contre le Ghana lors du match de la troisième place.
Suite et fin hier de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021.
8 défaites surprises des éléphants de Côte d'Ivoire en Éthiopie 2-1. Le Maroc s'est repris après avoir été tenu en échec à domicile par les Mourabitoun de la Mauritanie. Les Lions de l'Atlas ont rectifié le tir à Bujumbura, battant les Hirondelles 3-0, 2-0 pour la Mauritanie qui recevait la Centrafrique, 6-2 pour Madagascar en déplacement au Niger, 2-1 pour le Zimbabwe devant la Zambie. Les matchs de la troisième journée se joueront en mars 2020.
José Mourinho nommé entraîneur de Tottenham.
Le Portugais remplace l'Argentin Mauricio Pochettino, limogé hier par le club londonien de Premier League. Sans club depuis son éviction de Manchester United en décembre dernier, Mourinho a signé un contrat courant jusqu'à la saison 2022-2023. Il va diriger son troisième club anglais après Manchester United et Chelsea. Le Special One a entraîné parmi les plus prestigieux clubs européens. Le FC Porto, l'Inter Milan, le Real Madrid, Chelsea puis Manchester United. Il a remporté le titre de champion dans chacun de ses 4 championnats. Le technicien portugais est l'un des 3 seuls managers à avoir remporté la Ligue des Champions 2 fois avec 2 clubs différents, le FC Porto en 2004 et l'Inter Milan en 2010. Il a aussi été 3 fois champion de Premier League avec Chelsea. Tottenham occupe la 14e place de Premier League.
Triple-double historique pour LeBron James ici en NBA.
La star des Los Angeles Lakers a réalisé son 5e triple-double de la saison, 25 points, 11 rebonds et 10 passes décisives, devenant le premier joueur de l'histoire à en avoir réussi face à toutes les équipes de la Ligue. Victoire étriquée des Lakers face à Oklahoma City, 107 à 112. Défaite de Portland à New Orleans, 115 à 104. Les Warriors sont passés par toutes les émotions à Memphis avant de l'emporter 114 à 95, 120 pour Sacramento face à Phoenix, 116.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, passe à présent à nos dossiers du jour. Le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, Tibor Nagy, a déclaré hier qu'il n'y aura pas de victoire militaire dans la crise dans les régions anglophones du Cameroun. Il a relativisé le succès du grand dialogue national tenu début octobre à Yaoundé, qui a été boycotté par les séparatistes anglophones. Idriss Fall a recueilli la réaction du professeur Aboya Ndong Manassé, directeur du GNECPA à l'université de Douala au Cameroun.
La perspective dessinée par M. Tibor Nagy rentre dans la vie largement partagée par la majorité des Camerounais. Ce sont leurs frères, ce sont leurs compatriotes qui ont pris les armes contre l'État du Cameroun et dont une guerre qui pourrait amener beaucoup plus de morts, de tueries, n'était pas rentable pour le Cameroun. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective qu'un grand dialogue a été mis. Il y a des lieux identifiés comme étant des repères de ces sécessionnistes qui viennent attaquer les villes de Bamenda, de Koumba, de Boya, où l'armée pouvait régulièrement arrosé de bombes de grenades, mais le chef de l'État du Cameroun n'a pas franchi ce cap. Cela veut dire à profusion que cette crise ne peut pas se résoudre par la voie militaire uniquement, mais nécessite d'autres voies complémentaires.
Les séparatistes anglophones n'étaient pas conviés à ce dialogue dont vous faites allusion.
Les séparatistes ne sont pas facilement identifiables. Je pense que les organisateurs de ce grand dialogue, en l'occurrence le Premier ministre, avaient effectué des consultations. Ils avaient fait des descentes sur le terrain où ils suscitaient que les uns et les autres puissent venir à ce dialogue. Et donc, ce sont ceux qui sont portés volontaires qui ont assisté à ce dialogue. Les autres n'ont pas voulu assister à ce dialogue parce que c'était un dialogue ouvert à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui pouvaient apporter de leur contribution à solutionner cette crise, puisque l'essentiel du grand dialogue était axé sur la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest.
Comment accorder plus d'autonomie à ces deux régions anglophones?
Bien entendu, à la sortie du grand dialogue national, il y a eu cette suggestion des commissaires qui indiquaient qu'il fallait un statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et le chef de l'État camerounais a pris acte. Il a réitéré solennellement lors du sommet de la paix qui s'est tenu la semaine dernière à Paris, en indiquant que le principe de ce statut spécial va être implémenté. Naturellement, ça peut être envisagé soit par voie de décret, soit par voie législative à travers les députés à l'Assemblée nationale. Tout ce qu'on fait de la vie des officiels camerounais de leur propre bouche, ça sera un statut spécial dans le cadre du respect de l'intégrité physique du territoire. Ça veut dire que l'option fédéraliste est écartée, encore moins l'option sécessionniste, mais ce sera un statut spécial, notamment les problèmes liés à l'éducation, les problèmes liés à la justice.
Le professeur Aboya Ndong Manassé, directeur du GNECPA à l'université de Douala au Cameroun.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la longévité au pouvoir en Afrique. Le président Paul Biya vient de célébrer ses 37 ans à la tête du Cameroun, alors que dans d'autres pays, le débat fait rage sur une modification de la constitution pour permettre aux dirigeants actuels de rempiler. Qu'est-ce qui explique cette longévité au pouvoir de certains dirigeants? Comment faciliter les alternances pacifiques en Afrique et éviter les transitions difficiles? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
La chancelière allemande Angela Merkel a reçu à Berlin une dizaine de chefs d'État africains dans le cadre de son initiative Compact with Africa. Le but est d'attirer des investisseurs privés en faveur de programmes de développement en Afrique. Pour en savoir davantage, Eric Manirakiza a joint à Berlin le professeur à la retraite Hans-Joachim Herloz.
L'Allemagne est un pays très développé, mais en ce qui concerne les ressources, elle n'en a pas beaucoup. Et c'est pourquoi, pour rivaliser d'autres pays, surtout les pays européens, c'est nécessaire pour l'Allemagne d'établir des contacts profonds avec des pays africains. Mais dans le cas Allemagne, il faut aussi ajouter que à cause de l'histoire de l'Allemagne, en ce qui concerne les années 33 jusqu'à 45, l'Allemagne doit être assez prudent. Alors, elle ne veut pas qu'on aperçoive l'Allemagne comme une puissance plus ou moins colonisatrice comme la France. Ce sont les rapports économiques avec les pays africains qui comptent, surtout dans le concert des autres pays européens. Mais les prêts que l'Allemagne donne aux pays africains, c'est avec des stipulations. Et les stipulations, c'est que les pays africains garantissent des conditions juridiques intactes, parce que l'économie allemande hésiterait à investir dans des pays qui ne sont pas politiquement stables.
Vous avez vécu en Afrique pendant très longtemps. Est-ce que vous pensez que c'est un partenariat qui va plus profiter à l'Afrique par rapport à d'autres partenariats déjà existants?
J'en suis sûr. En différence de la France ou les autres pays européens comme la Grande-Bretagne et le Portugal, la Belgique et tout ça, l'Allemagne a commencé dès les années 60 de soutenir les mouvements de libération lorsque le miracle Allemagne commençait dans les années 60-70. Elle a eu beaucoup de services, le service des volontaires allemands, la GTZ avec des experts économiques et des ingénieurs. On a commencé à établir des relations. Je crois que la motivation de l'économie allemande est assez profonde que la motivation politique d'être un partenaire égaux à égaux.
Est-ce que ces investissements ou ces financements sont gratuits?
Non. Je crois que ce sont des investissements qui profitent à plus aux pays africains, mais aussi à l'économie allemande.
Hans-Joachim Herloz, professeur à la retraite à Berlin.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le programme alimentaire mondial des Nations Unies met en garde contre une crise humanitaire grandissante dans la région du Sahel qui englobe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans un rapport publié sur son site, les Nations Unies dénoncent les violents affrontements entre groupes armés, les déplacements de la population, la faim et la pauvreté généralisée. Plus de détails avec Blanche Sanou.
Dans la région du Sahel, le Burkina Faso est l'épicentre de cette crise dramatique. Il ressort du rapport de l'ONU qu'au moins 486 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile, ce qui porte à 860 000 le nombre total de personnes déplacées dans les trois pays sahéliens.
Au moment où nous parlons, des millions de personnes souffrent désespérément de la faim dans le Sahel. Des centaines de milliers de personnes sont déplacées. Des milliers de personnes sont tuées en raison de l'extrémisme et de la violence. Rien qu'au Burkina Faso, le nombre de personnes déplacées a augmenté de 500% et un tiers de la nation est désormais une zone de conflit. C'est une catastrophe. Nous devons agir et nous devons agir maintenant.
Cette détérioration de la situation humanitaire au Burkina Faso est liée en grande partie à la forte augmentation de la violence où le nombre d'attaques dans la première moitié de 2019 a dépassé le total de 2018 avec 4 fois plus de victimes civiles que le total enregistré en 2018, rappelle l'ONU.
Le monde ne comprend pas toute l'ampleur de la crise humanitaire grandissante dans la région centrale du Sahel, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, qui est alimenté par de violents affrontements entre groupes armés, des déplacements de population, la faim et la pauvreté. Agissez maintenant pour lutter contre la faim au Sahel où toute une génération est menacée.
Le conflit au Sahel dévaste l'agriculture et les économies rurales et près d'un enfant sur trois n'est pas scolarisé dans de nombreuses zones touchées par le conflit, note l'agence onusienne. Cette année, 2,4 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire dans le Sahel central, un chiffre qui pourrait augmenter.
Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de la nourriture. Tout le reste peut attendre. Une fois que nous aurons de la nourriture, nous nous préoccuperons des vêtements.
En attendant, les Nations Unies ont intensifié leurs actions en fournissant cette année une aide alimentaire à plus de 2,6 millions de personnes dans les 3 pays du Sahel, concentrant leurs efforts sur les zones où les besoins humanitaires sont les plus importants et où des déplacements massifs de la population ont eu lieu.
La procédure de destitution du président américain ne fait pas débat qu'aux États-Unis. Au Togo, certains étudiants fascinés par la politique américaine suivent de très près cette actualité. Pendant que les uns se mettent dans la peau des démocrates, les autres, sans pour autant se réclamer du camp républicain, mettent en garde contre le fait que Donald Trump pourrait tirer avantage de cette procédure. Suivez ce reportage de Kay Lawson, correspondante à Lomé.
À l'American Corner de l'Université de Lomé ce jour, un groupe d'étudiants est en plein débat. Le sujet de discussion, la procédure de destitution du président américain Donald Trump. Samuel Anna analyse à sa manière la dite procédure.
C'est une procédure qui est en train d'expulser le président de telle manière qu'il ne puisse pas postuler pour le prochain mandat. Si cette stratégie a été mise en place, c'est parce qu'ils ont constaté qu'ils ont eu des problèmes diplomatiques et du coup Donald Trump ne pourra pas les aider à pouvoir l'arranger. C'est pourquoi cette stratégie a été mise en place pour que le président soit enlevé.
Donald Trump n'a pas sa place à la tête d'une puissance comme les États-Unis, soutient Farida Essor Ourodoni.
Toutes les décisions que Trump et son gouvernement ont pris depuis 2007. Je crois qu'il y a plusieurs décisions qui nuisent non seulement aux États-Unis, mais aussi au monde entier. Et tout le racisme et sexisme et misogynie qu'il prône. Donc, une personne comme ça ne devrait pas être à la tête de la première puissance au monde.
Pour l'étudiant Marcel Amenke, cette procédure est l'œuvre du camp démocrate pour ternir l'image de Donald Trump.
Le Parti démocrate a trouvé une opportunité et encore décrédibiliser ce président. Je pense qu'ils essaient de juger le président alors que nous n'avons pas de claire évidence qu'il a vraiment commis ses actes. Je pense qu'ils ont en tête les élections de 2020 et ils ont peut-être peur que M. Donald Trump soit encore élu. Donc ils essaient de le discréditer devant son électorat.
Un autre étudiant, Yehouza Ahmed, qui épouse la théorie avancée par Marcel, estime que la procédure pourrait tourner à l'avantage de Donald Trump.
Si les démocrates agissent autrement pour le destituer, il risque aussi que le gars revienne dans son deuxième mandat pour continuer, parce qu'il va profiter de cela pour être élu pour le deuxième mandat.
Benjamin Coglet affirme ne guère être surpris par cette procédure, car selon lui, Donald Trump serait un président par défaut.
C'est un président qui n'était pas vraiment accueilli par la majorité de la population du monde qui ne s'attendait pas à voir Trump comme président. Avec son arrogance, il expose un abus de pouvoir.
Le président américain Donald Trump est visé par une procédure de destitution lancée par les démocrates qui l'accusent d'avoir abusé de son pouvoir en demandant à l'Ukraine d'enquêter sur le démocrate Joe Biden en vue de la présidentielle de 2020. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Lionel Gaïma. À la console, Michael Dubinsky. C'était Ekabadou avec vous en direct de Washington.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.